Sortie de boîte.
C'est une première pour moi. Souvent, je passe à côté en regardant avec envie cet espace bucolique, le Golf Club Les Bois. J'imaginais qu'il n'était réservé qu'à une élite, que franchir le portail était déjà payant. On en rigolera plus tard avec mon invité, qui est le seigneur de ces terres. Un gazon vert, mais pas seulement, des sapins, des plants d'eau, des haies et quelques jolies fleurs sauvages qui s'épanouissent dans des jachères bien délimitées. À gauche, en arrivant, j'aperçois une dizaine de golfeurs et quelques enfants et surtout des centaines de balles jaunes. Les balles de golf ne sont donc pas forcément blanche, encore une idée préconçue qui s'envole. Un peu en retard, je me précipite à la rencontre de mon invité qui m'attend sur la terrasse. Le restaurant qui a pris place dans une ancienne ferme domine le terrain de golf. Le temps gronde, mais je préfère rester dehors pour profiter du paysage et de cette ambiance reposante. Ce ne sont pas les canetons qui barbotent dans la mare à côté qui vont me contredire. Si comme moi, vous n'avez jamais mis les pieds au Golf Club Les Bois, son président va vous donner envie de vous y rendre. Jean-Pierre Bouille, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
Jean-Pierre Bouille, enfant des bois, vous habitez désormais à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes à la tête d'une entreprise spécialisée dans les enseignes d'Uranéon. Par quel hasard vous êtes arrivé au Golf Club Les Bois ?
Oh, par le hasard le plus total, puisque je ne connaissais rien au golf, je n'avais jamais joué ni même vu du golf, mais c'est le propriétaire des lieux qui a eu l'idée, à la fin du bail de son fermier, de transformer cette ferme avec quelque chose, avec deux, trois idées qu'il avait pour un peu rentabiliser ses terres mieux qu'avec l'agriculture. Il avait pensé à du sapin de Noël, des élevages de biches, et comme il était golfeur, en se promenant là-bas, tout naturellement, il a dit « c'est un golf qu'il faut faire ici ». L'idée qu'il avait émise a bouleversé la commune et a créé un tas d'oppositions, de gens qui ont écrit des articles en disant qu'il ne faut pas faire ça. Et moi, je trouvais que pour l'économie de la région, c'était une chose absolument très intéressante. Et je me suis mis à écrire un article en faveur. Et là, j'ai été rejoint par les gens qui soutenaient cette idée. Nous avons créé le Pro Golf. Puis après, nous sommes devenus le comité du golf. Et puis là, aujourd'hui, ça fait 30 ans de tout ça.
Donc ça, vous me disiez en préparant les émissions, cette émission, que ce golf a été enfanté dans la douleur.
Ah, écoutez, ça a divisé le village, c'était un moment difficile. Il y en a qui ont vécu la guerre du Jura contre, on la revit aujourd'hui à Moutier. Nous, on avait la guerre du golf, et comme l'avait dit le curé en prêche, aujourd'hui nous allons prier pour la guerre du golf en montrant le nôtre, en disant pas celui-là, l'autre. Donc ça remonte dans les années 88, et vraiment, on avait la moitié du village qui était pour, la moitié qui était contre, ou en tout cas... peu d'indécis. Tout le monde était touché d'une manière directe ou indirecte. Les paysans voulaient défendre des terres qui n'étaient de toute façon pas destinées à plus qu'un d'eux. Donc après, il y avait un petit peu les gens de la gauche, les écologistes, enfin, toute bonne raison de dire non à ce golf des bois, mais sans vraiment connaître ni les tenants ni les aboutissants. Et je crois que pour la plupart, c'était la méconnaissance qui les a fait être un peu prudents ou un peu catégoriquement défavorables.
Donc, faut s'imaginer en votation, 325 oui, 311 non, 93% de participation. C'est quand même énorme. Et vous me disiez, c'est grâce au lever de bouclier des opposants que finalement ce golf a vu le jour sur 54 hectares.
Ben, si on n'avait pas eu tant d'opposition, on n'aurait pas mis tant d'énergie à le défendre. Et s'ils avaient été restés un petit peu plus en catimini dans leur coin en disant c'est au vôtre qu'on va juger, mais ils ont forcé des vents contraires. Et puis finalement, ça a donné ce combat qui aujourd'hui a été gagné par le golf, heureusement. Et il faut quand même saluer que dès que le vote a été fait, on n'a plus d'anti-golf. Les gens ne sont toujours pas tous contents. Aujourd'hui, ça reste des unités, vraiment. Je crois que ça fait partie intégrante du paysage. Mais là, on n'a plus de soucis, alors qu'avant, on avait vraiment plus que des soucis.
On va parler maintenant de votre passion pour le golf. Donc, avant de voir le golf au bois, vous n'y avez jamais joué ?
Non, pas du tout.
Et maintenant, c'est vraiment...
Ben, écoutez, on a découvert ça au fur et à mesure, on a évolué avec le projet, et forcément on peut pas faire un projet comme ça, puis pas goûter ce qui s'y fait, et puis comme le golf, quand on essaye, le risque c'est de l'adopter, donc je vous invite à tous de venir essayer, et puis de l'adopter si ça devait vous convenir.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce sport ?
Alors, il y a un aspect social qui est très intéressant parce que vous jouez jamais seul ou rarement. Vous pouvez aller jouer à l'étranger, on vous fait partager des parties avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous faites des très belles rencontres. C'est un sport où vous n'avez pas d'adversaire autre que vous. Donc, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous pouvez jamais être fâché avec un adversaire. C'est jamais sa faute. C'est toujours que la vôtre si vous avez mal joué. Et je pense que c'est une belle école de vie, de pouvoir se contenir, de pouvoir, même si des fois c'est très difficile quand même, parce que on se prend au jeu, et puis des fois les nerfs lâchent, et puis des fois on a envie d'envoyer un petit juron ou un petit mécontentement, mais voilà, il faut arriver à maîtriser cette situation et puis avoir du plaisir.
Vous me disiez aussi, c'est qu'on peut réaliser le coup parfait au golf, même en tant qu'amateur.
Alors je crois que c'est un des seuls sports où on peut faire mieux qu'un professionnel ou mieux que le meilleur, puisque vous pouvez imaginer qu'en une fois votre balle aille dans le trou, à part un coup parfait, c'est très très rare. Moi j'en ai fait, voilà, maintenant 25 ans que je joue au golf, j'en ai fait un. Donc une fois ma balle est tombée dans le trou en une fois, donc vous voyez c'est des événements rarissimes, mais ça vous permet d'être vraiment excellent sur quelques coups.
Maintenant qu'on a dressé un peu le portrait des lieux, on part en visite avec le capitaine, pas du bateau, mais du golf. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un capitaine sur un terrain de golf?
Alors, c'est le capitaine, c'est un rôle très important. Donc vous avez toujours le comité qui est constitué, bien sûr, d'un président. Et le capitaine, c'est vraiment l'homme qui s'occupe de tout l'aspect jeu, technique et compétition. Donc il a un grand travail, le capitaine.
C'est donc en compagnie du capitaine Léo Cuche que Jean-Michel est parti à la découverte du golf des Bois dans une voiturette. Reportage.
Sortie de boîte.
Alors moi je vous propose, c'est qu'on aille voir les 9 premiers trous de l'autre côté de la route.
On remarque avec cette surface et un gazon qui est à entretenir qu'il y a un travail réellement important.
Oui, ben lors de la saison de pousse, maintenant, il faut tendre les fairways, c'est-à-dire la piste, il faut la tendre à peu près tous les 2 à 3 jours. Et les graines, on les tend tous les jours. Alors ça demande du matériel et du personnel, bien entendu. On traverse la route. Et moi, je vais vous amener directement vers un endroit que je trouve très intéressant, au Jura, terre très karstique. Il n'y a que des cailloux. Et ici, à cet endroit-là, dans la partie la plus basse de tout le parcours, à 1010 mètres d'altitude, on a créé un étang. C'est un étang qui fait 7000 mètres carrés. On a une réserve d'eau d'environ 10 000 mètres cubes. Ça nous suffit pour arroser s'il n'y avait pas d'apport d'eau pendant à peu près 3 mois. Parce qu'il nous faut environ 80 mètres cubes d'eau pour arroser s'il n'y a pas de rosée, s'il n'y a pas de pluie pendant la nuit. Et cet étang est alimenté par les eaux de surface du village des Bois et par la station d'épuration qui est juste là derrière. Et cette station d'épuration nous apporte environ 60 à 80 mètres cubes d'eau par jour. C'est-à-dire, on est totalement autonome. À ma connaissance, c'est un des seuls golfs en Suisse, peut-être d'Europe, qui est entièrement arrosé avec de l'eau de récupération d'une station d'épuration. C'est côté écolo intéressant pour moi. Ici, c'est le 14, un par 5. On part depuis là derrière. Et ça nous amène jusque vers les arbres. On voit le drapeau là au fond. C'est 460 mètres. Et derrière ces sapins, c'est la frontière du plateau du Jura, avec le plateau de Berne. Et c'est ici l'endroit. C'est les franches montagnes. Ici, il n'y avait que des sapins, il n'y a pas d'érable. On en a planté. Mais là, de l'autre côté, là, des pâturages. C'est que des sapins, c'est typiquement les franches montagnes. On a coupé quelques sapins pour pouvoir faire les pistes, mais très peu. On a coupé à peu près une dizaine de sapins. On en a planté à peu près une centaine.
Et ça, sa ressource?
Ça, c'est le calme complet. C'est les oiseaux. Et le matin, les abeilles qui bourdonnent dans ces sapins-là. C'est fabuleux. Et puis le matin, les jardiniers nous disent il y a beaucoup de, d'animaux, des chevreuils, des renards qui passent quand ils viennent tondre les ferroués. Il y a pas mal de, d'animaux. Ben, y a, prochaine maison, elle a 300 mètres devant nous. Et puis ici, de ce côté-là, il n'y a pas une maison sur 3 km. Et d'autre côté, la prochaine maison, elle est 1 km. C'est que des pâturages de chacun, de part et d'autre.
Sortie de boîte.
On vient de l'entendre dans le reportage, le golf, les bois mettent en avant la nature ténionne. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les terrains de golf ne respectent pas ou peu l'environnement ?
Écoutez, il y a une grande évolution dans ce domaine-là aussi. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui n'est pas touchée par l'écologie, de près ou de loin. Et nous, nous avons fait un grand effort pour ne pas avoir trop d'engrais, que nos engrais soient les moins mauvais possibles ou les meilleurs possibles pour la nature. Donc on a un grand souci. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Le golf, en général, fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là.
Et puis dans le fait de couper des arbres ou de faire des greens totalement verts.
Ben, les greens, c'est de l'herbe, c'est rien d'autre que de l'herbe qu'on coupe, c'est une herbe un peu particulière qu'on coupe un peu plus près. Les arbres en tout, on en a planté 6000. 6000 arbres qu'on a plantés sur toute la zone. Donc je pense qu'on a rendu à la nature plus qu'on y a pris.
Dans les autres idées préconçues qu'on se fait sur le golf, c'est que c'est un sport c'est cher, c'est vrai quand même.
Alors on ne peut pas dire que c'est un sport bon marché, ce serait quand même se voiler la face. Non, ce n'est pas un sport cher non plus, c'est un sport qui demande un certain coût. Alors si on parle du golf des bois, aujourd'hui on avait des entrées qui étaient assez chères au début puisque c'était un petit peu la norme. Et aujourd'hui on a remarqué quand même que le golf suisse en général, même mondial, a tendance à augmenter en âge, en moyenne d'âge. Et pour réagir à ça, on a essayé d'avoir un palliatif qu'on espère qui marchera bien, c'est qu'on a baissé le prix d'entrée. Avant c'était 8500 francs et maintenant on a mis 100 fois son âge. Ça veut dire que comme vous, j'ose dire votre âge, vous êtes si jeune, 31 ans, 3100 francs et vous faites partie du club. Donc vous voyez que c'est vraiment une offre qui devrait être en tout cas interloquée ou interpellée pour dire ah, peut-être que je devrais essayer.
Mais après, il faut quand même, avec 3100 francs, je ne peux pas encore jouer au golf. Il faut quand même que je paye après mes cotisations annuelles.
Alors, c'est certes, oui, il faut quand même... d'abord, il faut prendre des leçons, il faut un peu apprendre à jouer. Il faut se donner les moyens de le faire. Il faut acheter un sac. Enfin, il y a pour 1500 francs d'équipement à peu près. Puis après, il faut quand même prendre un peu des leçons. Puis après, une fois que vous êtes prête pour jouer, vous allez demander à payer une quotie pleine. Ça veut dire une quotie pour joueur. Et vous allez payer 2000 francs par année pour jouer à souhait, tous les jours, comme vous le voulez.
Et si on ne veut pas devenir membre, si on ne veut pas payer de cotisation pleine, est-ce qu'on peut venir juste pour une journée au Golf des Bois ?
Alors, il y a une association en Suisse des golfeurs indépendants qui s'appelle l'ASGI, qui vous demande une cotisation annuelle de 300 francs, avec laquelle vous obtenez une carte. Vous devez aussi passer l'autorisation de parcours. Ce n'est pas tellement par peur pour le terrain, c'est plus par peur de ne pas connaître les règles, de ne pas savoir où on se met, de se mettre en danger ou de mettre en danger les autres. Donc, il faut apprendre un petit peu à jouer au golf, c'est clair, pour obtenir cette autorisation de parcours. Et dès que vous avez ça, avec votre carte de l'ASGI, vous pouvez jouer. Puis le green fee coûte de 80 à 100, 110 francs, ça dépend des jours, si c'est le dimanche, c'est le week-end, à quelle heure c'est. Mais c'est tout à fait raisonnable.
Et ça aussi, j'ignorais, c'est que, et notre photo sur la brève internet le montre bien, c'est que le golf, c'est un sport dangereux.
Dangereux, c'est excessif. Non, vraiment pas. Alors, je pense que c'est un sport qui peut avoir des dangers si on n'est pas, si on se met pas où il faut, si on reçoit des balles, ça pourrait faire très mal. Mais je connais pas encore en Suisse quelqu'un qui est mort du golf. S'il est mort par son cœur à lâcher, tellement il y a eu d'émotion, mais en tout cas pas à cause d'une balle de golf.
Mais par exemple, des temps orageux comme aujourd'hui, il y a quand même des dangers d'être sur un green en plein milieu de la nature.
Ah, on est d'accord que quand il est orageux, on fait attention, on a justement un pistolet. Et si le danger est trop menaçant, on tire un coup de pistolet pour dire aux gens, arrêtez de jouer, réfugiez-vous dans les cabanes qu'on a pour se réfugier pour cela. Et deux coups, on peut repartir. Et trois coups, alors on n'a plus de conditions, on ne peut plus jouer, on rentre à la maison. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut apprendre. Qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte pour ne pas se mettre en danger ni mettre en danger les autres.
Je vous propose maintenant de parler d'horlogerie et de sport automobile. Deux domaines bien différents qui pourtant se rejoignent dans la chronique de Marie-Lise Saillard, pile à l'heure.
Pile à l'heure.
On se penche aujourd'hui sur une pièce unique créée à l'occasion d'un double anniversaire, les 50 ans d'un événement et les 10 ans d'une entreprise horlogère. Cette entreprise est née dans l'esprit de trois amis néerlandais, de la marque horlogère genevoise Frédéric Constant.
La Hollande, l'autre pays du fromage.
Et où installe-t-il cette manufacture de luxe à l'époque? Là où l'image peut correspondre aux produits qu'il compte sortir, là où il y a un opéra. Là où il y a des casinos.
Faites vos jeux, rien ne va plus.
Et là où il y a aussi, et ça a son importance dans cette chronique, un grand prix de Formule 1. La manufacture que nos trois amis néerlandais fondent s'installe sur le rocher et prend ce nom Atelier de Monaco. Au départ, les composants sont faits en Suisse et assemblés à Monaco, mais maintenant, les pièces créées par les ateliers de Monaco bénéficient du Swiss Made car l'entreprise a rejoint Plan Les Ouates dans le canton de Genève. Il y a 50 ans, en 1968, le pilote anglais Graham Hill remportait le Grand Prix de Monaco dans sa Lotus Ford Cosworth sur le circuit de Monte Carlo.
From the start, we rush up towards the Sandebout corner, which is a very vital corner. It's a very fast corner.
Les ateliers de Monaco se sont inspirés de l'affiche de ce Grand Prix de Monaco 1968, signé Michael Turner, pour créer le cadran de la montre. Ce cadran est composé de trois disques en or blanc, 18 carats. Pour favoriser l'impression de relief, il a été gravé à la main. Au premier plan, le vainqueur du Grand Prix 1967, Denny Hulme, conduisant sa Brabham Repco, suivi de près par Graham Hill et sa Lotus. Au deuxième plan, on voit la baie de Monaco, surplombée par des immeubles.
La mer, qu'on voit danser.
Et au troisième plan, le ciel nuageux de la Méditerranée.
Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées.
À l'intérieur, les ponts sont décorés à la main, la réserve de marche est de 40 heures, et en fait, c'est une montre monochrome. Tout est de la même nuance, les aiguilles, la lunette, la couronne, la boîte en or blanc de 44 mm. Monochrome peut-être, mais loin d'être triste.
Pile à l'heure.
On va désormais aborder le dernier thème de notre interview, ce sont les perspectives de développement. Vous avez investi 16 millions de francs depuis l'ouverture des premiers trous en 1995. Et en préparant cette émission, vous me disiez que vous étiez parvenu au bout du développement du Golf Club Les Bois. Pourquoi ?
Au bout du développement, pas vraiment, mais au bout des possibilités qu'on a d'agrandir. On ne pourra plus agrandir, on n'a plus de terrain. Je crois non plus que ça ne répond pas à une réelle demande. On peut faire face à toutes les demandes qu'on a actuellement. Maintenant, on a pu faire 9 chambres. Là, si on avait peut-être pu en faire plus, on les aurait fait. Mais c'est vraiment... On a tout occupé des locaux, tout est neuf, tout a été refait. Après 25 ans, on a refait la cuisine, on a investi vraiment pas mal. Maintenant, il faut amortir avant de repenser à investir de nouveau.
Alors, quelle est la suite ?
La suite, c'est de rajeunir la moyenne d'âge. Ça, ce serait un objectif, de permettre aux jeunes, parce qu'on fait un énorme effort pour les 20 ans du golf, on avait ouvert le sport à toutes les classes qu'ils voulaient bien. On a reçu 16 ou 18 classes de jeunes qui sont venus voir en sortie d'école. Ça a été vraiment très intéressant. Les gamins sont rentrés à la maison enthousiastes et ils ont découvert quelque chose qui est bien. Et je crois que c'est là un petit peu l'objectif qu'on doit se fixer. On fait un énorme effort pour que les juniors, ça coûte rien, le VO, ça coûte moins cher que le FOT. Vraiment, on fait un énorme effort pour que les juniors puissent jouer. Bien sûr, c'est au bois. Et puis, si on habite peut-être à une certaine distance, il faut que les parents consacrent un peu de temps pour amener les enfants. Mais ma foi, ça, c'est...
C'est un sport qui plaît aux plus jeunes ?
Oui, alors le problème c'est qu'on se rend compte que les enfants de golfeurs deviennent presque tous golfeurs parce qu'ils le connaissent et ils sont dans le milieu. Et les enfants qui n'ont pas les parents golfeurs, on a un petit peu plus de difficultés à les prendre parce que d'abord les parents ils commencent de quantifier les nombres de voyages qu'il faudrait faire. Enfin peut-être qu'ils ont moins de disponibilité, ils ont peur des coûts. Peut-être qu'il y a un peu des craintes qui ne sont pas tout à fait fondées, mais aujourd'hui les enfants qui ne sont pas issus de milieu golf, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, d'où viennent vos golfeurs ? Des bois, des Franches-Montagnes ?
Alors, le bassin de population, on dit que pour un golf, on rayonne à moins d'une heure de voiture, parce qu'après, ça commence à devenir un petit peu loin. Donc, on a les Jurassiens, les Franches-Montagnes, bien sûr, on a tout le Célan, qui est la région neuchâteloise, même qu'il y a déjà un golf à Neuchâtel, ça ne remplit en tout cas pas les besoins. Aujourd'hui, avec Neuchâtel et les bois, je crois qu'on peut offrir une offre intéressante pour la plupart des golfeurs.
Il y a de la concurrence entre les différents golfs de Suisse. Il y en a une centaine en Suisse.
Il y a 100 golfs en Suisse. Nous, notre concurrence, si on ose appeler ça la concurrence, parce qu'on n'a pas de concurrence, c'est un petit peu les golfs français, voisins, de Prunvel, de la Largue. En fait, même s'ils font partie de l'ASG, mais ils sont ici sur sol français. C'est peut-être entre... Les Jurassiens sont un peu tiraillés entre la distance pour aller en France et peut-être le prix pour venir au bois, puisqu'en France, c'est un peu meilleur marché. Voilà, chacun fait comme bon lui semble. Moi, j'aimerais bien voir les Jurassiens venir au bois, mais ça, ma foi, c'est peut-être pour l'avenir.
Qu'est-ce qui distingue, sur quoi vous jouez pour attirer des golfeurs? Qu'est-ce qui plaît au golf des bois?
Le site est extraordinaire, mais en général, les golfs sont toujours dans des sites remarquables. Mais au bois, dans le plateau des Franches-Montagnes, dans ces sapins séculaires, on a l'impression que ce golf a toujours existé. Il est intégré complètement. Donc, je crois qu'on a un retour énorme de qualité de notre golf par les gens qui viennent le pratiquer. Ils sont toujours étonnés de la qualité du golf qu'on a au bois.
Vous avez aussi des golfeurs qui viennent de beaucoup plus loin ?
Ah oui, on a des gens qui viennent. J'ai un membre qui est aux États-Unis, qui vient de temps en temps. Il était tellement amoureux de ce golf, il a dit « moi je vais être membre ici », donc il vient deux fois par année. Ça c'est plus le cœur qui a parlé que la raison. Et on a quand même pas mal de gens étrangers, principalement plutôt des Allemands ou Autrichiens, Italiens qui sont en voyage dans la région. Puis sans ça, beaucoup de Suisses allemands, bien sûr. On a à peu près 5000 visiteurs par année qui viennent payer un jour de jeu.
Et 450 membres.
Membres actifs.
Le but, c'est quand même d'augmenter ces membres actifs.
Alors, on a de la place pour aller à 550 sans encombrement. Donc, on peut encore prendre une centaine de membres.
Comment y parvenir, alors ?
Ben, en faisant les actions qu'on a faites, en essayant d'en parler, en faisant des émissions comme celle-ci pour dire aux gens, le golf, ce n'est pas un truc inaccessible. Vous pouvez tourner, vous pouvez venir voir, vous pouvez aller au secrétariat, dire « Bonjour, j'aimerais voir ce que c'est que le golf. » Vous prêtez des cadres, vous pouvez prendre une leçon, le pro est à votre disposition. Bien sûr, il faut payer le pro, ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Mais en fait, c'est peut-être qu'au bois qu'on peut faire ça, parce qu'on a une structure d'accueil, on s'est voulu un golf touristique, parce que... on n'a pas tellement le choix. On doit vivre avec le tourisme aux Franches-Montagnes.
Comment on parvient à démocratiser ce sport ?
C'est difficile de changer les images, parce que les images, vous savez, ça fait... Nous, le golf a toujours été ouvert, le restaurant a toujours été ouvert, et j'ai des gens après 25 ans qui me disent « Ah, on peut venir au restaurant ?» Mais bien sûr, on peut venir au restaurant, pourquoi vous ne pouvez pas venir ? Donc les gens se créent des barrières sur des idées préconçues qu'ils ont. Le golf, c'est quelque chose un peu à part, comme si on était un petit peu une secte ou quelque chose de particulier, alors c'est vraiment pas le cas.
Mais il y a quand même ce style un peu élitiste qui colle au basque du golf.
Bien sûr, l'équitation aussi, tous les sports de motorisés, la voile, les sports d'eau, tous ces sports-là sont plus chers que le golf et ne souffrent pas de cette image. C'est vraiment, on doit véhiculer une nouvelle image, mais c'est difficile de changer. Parce que d'abord, quand vous parlez de golf à quelqu'un qui n'est pas intéressé, il n'écoute pas beaucoup et il n'a pas envie de se laisser convaincre. Donc il faut déjà faire une démarche de dire, je voudrais voir ce que c'est. Mais la télévision, les Jeux Olympiques, aujourd'hui on voit un peu plus golf, un peu plus partout, on en parle. Dans les journaux, dans la presse, donc je pense que l'éveil va venir.
On y croit, on espère. Jean-Pierre Bouille, nous arrivons déjà au terme de notre demi-heure consacrée au Golf Club Les Bois. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes.
C'est moi qui vous remercie, bonne soirée.
Et si vous avez manqué un passage de cette émission Sortie de boîte, rendez-vous sur notre site internet pour écouter le podcast ainsi que le podcast des émissions précédentes. La semaine prochaine, Sortie de boîte vous propose une incursion dans le monde de l'horlogerie auprès de la marque biennoise Gagne-Bain et compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée.